Parlant de détresse psychologique, ouais. Les psychologues québécois demandent davantage d'investissement de la part du gouvernement pour offrir plus de services psychologiques fournis par l'État, parce qu'il y a comme une espèce d'exode vers le privé des psychologues. Mmh. Et en fin de semaine, il y a eu des médecins, on parle de 700 médecins, qui ont décidé d'appuyer les psychologues dans cette démarche-là, qui pensent qu'effectivement, ça prend plus de services psychologiques. Et Jonathan va parler avec la docteure Valérie Labbé, qui est pédiatre, qui a décidé de partager cette lettre-là des psychologues. On va aller la retrouver. Docteur Labbé, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, pourquoi donc décider d'appuyer vos collègues psychologues dans cette démarche-là?
Oh, c'est comme d'une évidence évidente. En fait, nous, comme médecins, moi, comme pédiatre, je vois énormément en clinique des cas de jeunes présentant là, des problèmes de santé mentale. Puis, ça existait avant la pandémie et ben ça l'a augmenté, hein, comme on en parle partout, là, c'est pas un secret de polichinelle, là, tu sais, comme tout le monde parle de plus en plus de la santé mentale, c'est difficile pour nos jeunes, c'est difficile pour tout le monde. Alors, nous, c'est un problème qui dure depuis très, très longtemps, mais qui va être exacerbé, là, par la pandémie. Ce qui arrive, c'est que nos jeunes viennent nous consulter et, des fois, ils ont eu des rapports de psychologues de l'école ou de psychologues au privé ou même, ça arrive aussi au public, là, pour des diagnostics, entre autres, de TDAH, troubles du comportement, etc. Nous, on va voir si on prescrit une médication là-dessus et s'il y a d'autres diagnostics en cours. Pour tous les troubles, là, plus anxiété, dépression, c'est des jeunes qui se présentent sans avoir eu d'évaluation au préalable la plupart du temps et qui arrivent dans notre bureau en exprimant leurs symptômes. Et nous, qu'est-ce que notre façon de faire en pédiatrie, c'est tout d'abord demander une psychothérapie. Alors, on va pas avec la médication. La médication reste le dernier recours. Okay. On va demander une psychothérapie. Et là, la question qui tue, on demande aux parents, avez-vous des assurances ou pas d'assurance? Parce que s'ils ont des assurances, on va leur dire, ben écoutez, mettez-vous sur une liste pour aller voir un psychologue au privé. Et ils vont être mis sur une liste d'attente parce que même au privé, il y a énormément de demandes là en ce moment. Par contre, s'ils en ont pas, le chemin va être compliqué parce que on doit passer par la première ligne qui est offerte par le CLSC et les parents doivent appeler par eux-mêmes pour demander un service. Ils vont avoir un rappel après. On va leur demander qu'ils expliquent leur situation. On va leur envoyer un questionnaire qu'ils doivent remplir. Ensuite de ça, la plupart du temps, ça va être un travailleur social qui va prendre le dossier, qui va l'analyser, rencontrer les parents, faire des rencontres, puis tout ça. Mais ça, évidemment, ça se fait pas rapidement. Hein. Tout ça a des temps d'attente qui sont excessivement longs, surtout pour la population pédiatrique. Alors, c'est un gros problème. Puis, quand on est pris avec ce problème-là, ben nous autres, on se sent très impuissants dans nos bureaux parce qu'on voit des jeunes qui sont souffrants, qui auraient besoin d'aide. Le traitement de base en pédiatrie, c'est même pas la pilule, c'est la psychothérapie. Puis, beaucoup de personnes n'y ont pas accès.
Mais le gouvernement dit qu'il prend la situation au sérieux, puis là, il y a un programme qui a été mis en place. Il en est fait mention dans la lettre ouverte, le programme québécois pour les troubles mentaux. Et là, il y a des bonnes intentions là-dedans, mais en même temps, c'est pas suffisant. On parle d'applications mobiles, des trucs comme ça, mais les gens ont besoin d'être capables de rencontrer quelqu'un, puis ça, ces ressources-là, il y en a pas assez.
Ben les psychologues au public, il y en a pas beaucoup et encore moins disponibles pour notre population pédiatrique. Puis ce qu'on apprend, c'est que 75% des finissants au doctorat, j'insiste sur le mot doctorat, 75% des finissants en psychologie vont choisir le privé. Et quand on leur pose la question pourquoi vous allez au privé, eh bien il y a deux principales raisons. Il y a le salaire et puis l'autonomie professionnelle. Alors, il y a un gros gap entre le salaire au public et le salaire au privé. Et il y a aussi un problème d'autonomie professionnelle parce que au public, ils ont certaines règles à suivre, ben beaucoup de règles, je dirais, à suivre. C'est pas mon métier à moi là, mais de ce que je comprends, c'est qu'on leur impose des fois aussi, tu sais, comme un nombre de rencontres, alors que le psychologue penserait que ça serait plus efficace de continuer les rencontres, mais bon, si c'est terminé, c'est terminé. Bref, on leur impose beaucoup plus de choses au public, ce qu'ils n'ont pas au privé, et ce qui fait que les finissants préfèrent aller dans les services privés.
Docteur Labbé, vous avez parlé tantôt de temps d'attente. Ça ressemble à quoi, là? Quand un jeune a besoin, justement, d'une psychothérapie, c'est-tu en mois? Moi, il y a des gens qui m'ont déjà parlé d'années, là. C'est quoi le temps d'attente?
D'années.
Qu'est-ce que vous observez?
Ça dépend des endroits, ça dépend des places. Je vous dirais que j'ai même dû faire moi-même ces démarches-là pour mon enfant. Et après des mois et des mois d'attente, on rencontre la travailleuse sociale, on remplit des questionnaires. Et pour moi, c'était clair que ma fille avait besoin plus d'une psychothérapie, alors d'aller voir un psychologue. Et j'insiste. Et ça après plusieurs rencontres, plusieurs mois. Et finalement, ce qu'on me dit, c'est, écoutez, on va être franc avec vous, on n'en a plus de psychologue dans notre CLSC.
Oh.
Parce que, puis là, moi, j'étais, je voulais tester le système. Évidemment, j'ai l'argent pour aller au privé, alors je suis allée au privé. Mais je voulais voir un petit peu vers quoi mes patients devaient passer. Et c'est vraiment difficile, c'est lourd. Et aussi, la façon de faire au public est un petit peu différente de la prise en charge au privé, dans le sens que c'était beaucoup, puis c'est pas mauvais, là, mais une prise en charge globale de la famille et tout ça, et c'est tout à fait adéquat de parler de la dynamique de la famille et tout ça, mais on prenait pas l'enfant seul pour travailler avec lui. Et pour moi, un one size fits all, pour toutes les situations, ça fait pas de sens. Alors, tu sais, comme c'est un petit peu là-dessus aussi que les psychologues se plaignent, tu sais, ils veulent avoir une autonomie professionnelle. On fait un doctorat, je veux dire, ils ont autant d'années d'études que nous. Mais nous, comme médecins, on a un grand privilège d'avoir des bonnes conditions salariales et une bonne autonomie professionnelle, et eux n'ont pas ces deux conditions-là. Alors, comme humain, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ben, quand les finissants voient ça puis constatent ça, ils s'en vont au privé.
Ouais.
Et pour faire changer ça, c'est compliqué parce qu'ils sont dans un syndicat qui il y a 100 corps professionnels là-dedans. Alors, c'est sûr que c'est excessivement compliqué, mais c'est ces autres corps professionnels-là qui existent. Et je veux pas minimiser, mais bon, ils ont des bacs alors qu'on exige aux psychologues des doctorats.
Ouais.
Alors, on leur exige de faire autant d'années d'études qu'un médecin, mais après ça, ils ont pas le privilège qu'on a, nous, d'avoir, c'est ça, de bonnes conditions salariales et une bonne autonomie professionnelle.
Jusqu'à quel point la détérioration de la santé mentale de nos jeunes, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Parce que, en ce qui concerne la santé publique, la pandémie, on dit, on voit la lumière au bout du tunnel, il y a le vaccin, puis on espère un retour à la normale au mois de septembre. Mais selon votre expérience, selon ce que vous anticipez, jusqu'à quel point les problèmes qui auront été créés chez les jeunes, eux, vont perdurer dans le temps? Ils s'arrêteront pas du jour au lendemain parce que la santé publique va être rétablie, par exemple?
C'est une bonne question, puis c'est très difficile de répondre, mais ce que je vous dirais, c'est que même avant la pandémie, si on regarde nos adolescents, environ 15 à 20 % de nos adolescents étaient déjà médicamentés pour le TDAH ou pour l'anxiété. On a vu, tu sais, comme dans les 5 dernières années, 70 % d'augmentation de prescription d'antidépresseurs chez nos jeunes filles. Et là, on est allé fragiliser beaucoup de personnes en même temps. Ça a un effet contagieux, l'anxiété aussi. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est une nette augmentation de la prescription des pilules là, chez nos ados, surtout. Mais même, je dirais, chez des jeunes. Nous, en pédiatrie, présentement, quand on en parle avec nos collègues pédopsychiatres, ils disent, vous êtes en train de voir la clientèle que nous, on voyait il y a à peu près 10-15 ans. Alors nous, on comme pédiatre, dépendamment des endroits où est-ce qu'on travaille, moi, à l'endroit où est-ce que je travaille, je n'ai pas d'aide. Tu sais, comme j'ai pas de psychologue, de travailleur social dans mon équipe, alors qu'il y a 10-15 ans, l'équipe de pédopsychiatrie en avait pas énormément, et il en manquait toujours, mais au moins, ils avaient quand même certains services. Moi, quand je vois des enfants qui sont en détresse, puis quand je vous parle de détresse, là, c'est les idées de mort, là, oui. Je veux dire, avant, là, j'entendais jamais ça, là, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend, là, de plus en plus chez des très jeunes, là, des 10, 11 ans, tu sais, et beaucoup, beaucoup de souffrance, et je voudrais bien les aider. Mais on se heurte au fait qu'il nous manque des services en santé mentale. Et la santé mentale, c'est un sujet tabou depuis des années et des années. Mais là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est, bon, maintenant que la situation est si prévalente un peu partout, j'aimerais bien questionner la population. Parce que, comme société démocratique, je me dis, si la population parle, à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix d'agir. Alors, comme population, quelle place on veut donner à la santé mentale?
Ouais.
Dans les rapports de 2015-2016, on parlait de 6% du budget total de la santé qui allait en santé mentale. Est-ce que c'est la place qu'on veut lui laisser ou on voudrait donner plus de soins parce qu'on le sait et les psychologues sont là pour ça, pour nous aider finalement à ce que nous aider à progresser et que quand on a un problème, ils vont nous aider à le régler, mais aussi nous donner des outils pour ne pas que ça revienne.
Ouais, c'est ça. Puis vous avez raison, docteur Labbé, parce que ça fait des années qu'on parle de ça. Il y a des compagnies qui organisent des journées Belle Cause pour la cause. Puis dans le discours, on l'entend beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et je me demandais, parmi les solutions, par exemple, parce que je comprends que l'écart salarial entre les psychologues au privé puis au public, il sera peut-être pas rattrapé demain matin. Souhaitons que ça arrive peut-être éventuellement. Mais est-ce que, je sais pas moi, d'acheter des consultations au privé, est-ce que l'État pourrait pas y aller de cette façon-là pour essayer à court terme ou à moyen terme d'offrir un peu plus de services?
À court terme, moi, je vois pas d'autres solutions parce que, je veux dire, il y en a pas tant des doctorants, des psychologues là, qui fournissent leur doctorat. Là. Alors, je vois pas d'autres solutions à court terme. Maintenant, je pense pas que c'est la bonne façon de faire parce que, vous savez, il y a des gens qui quittent des psychologues, qui quittent le milieu public pour aller au privé pour justement reprendre des contrats du public et être payé davantage. Alors, si on continue avec cette solution-là qui peut être une situation d'urgence
en ce moment.
C'est un plaster
un peu, là. C'est un plaster.
Oui, ouais. T'sais, ça va pas aider à long terme. Alors, vraiment, je pense que comme population, on doit se positionner et envoyer un message clair au gouvernement. Qu'est-ce qu'on veut pour la santé mentale? Et ça peut toucher vraiment tout le monde, hein? Vraiment, on le voit là, tu sais, comme plus de 50% de la population là, manifeste là, plus ou moins à des degrés différents là, des difficultés au niveau de sa santé mentale là, actuellement. Fait que du jour au lendemain, on peut perdre nos assurances, puis devoir consulter au public aussi. Là. C'est pas seulement des familles vulnérables là, qui n'ont pas d'assurance au privé. Il y a vraiment, ça touche beaucoup, beaucoup de monde.
Merci beaucoup, docteur Labbé. De nous avoir parlé.
Merci.
Merci, au revoir. Docteur Valérie Labbé, pédiatre. Donc, vous comprenez le problème, là? On manque d'accès à des services psychologiques, donc, dont les coûts sont défrayés par l'État. Les psychologues vont faire carrière au privé, là. Ça prend des assurances. Il y a des coûts plus élevés. Vous voyez un peu l'état de la situation. C'est un autre bel exemple de le tout inclus qu'on nous promet parce qu'on abuse de nos taxes et de nos impôts. Il n'existe pas en réalité.
Et les psychologues qui sont assez sévères envers le gouvernement parce que là, on parlait au docteur Labbé parce qu'il y a 700 médecins qui ont appuyé la lettre qui ont signé la lettre de la coalition des psychologues, mais je lis un extrait là, parce qu'ils n'ont pas l'impression que le gouvernement en fait suffisamment. Ils disent, malheureusement, le gouvernement ne fait rien pour améliorer l'accès à la psychothérapie pour la population. Bien au contraire, tout suggère qu'il considère les psychologues comme un luxe. Après tout, à ses yeux, les gens souffrant d'une dépression majeure peuvent se traiter eux-mêmes en lisant un guide d'auto-soin, un peu comme on assemble un meuble Ikea.
Oh boy, ça fait dur. Là.
Ça fait référence justement à le programme qu'ils ont lancé, dont je faisais référence. C'est bien beau d'avoir une application, mais à un moment donné, c'est que ça prend.
C'est une vraie psychothérapie, là.
Ces gens-là ont été fâchés d'entendre. C'était Geneviève Guilbeault qui avait dit il y a quelques semaines en conférence de presse, oui, les services sont là. Faut que les gens aillent chercher les services en santé mentale. c'est pas vrai. On manque de services.
Oui. Il y a quelqu'un qui nous écrit, qui nous dit, moi, j'ai une assurance au travail et nous avons un très bon service. Donc, pourquoi on irait au public? Le gouvernement ne peut pas toujours tout payer. Je comprends le point. Puis moi, je suis le premier à dire que le gouvernement ne peut pas toujours tout payer. Le problème au Québec, c'est qu'on nous dit, oui, les impôts sont très élevés, les taxes sont très élevées, on est les plus taxés en Amérique. Par contre, on a tout un filet social.
Le panier de services.
Le panier de services. On est supposé avoir le meilleur filet social et tous les services, une espèce de tout inclus.
Ça ressemble
il y a là
au panier,
le problème avec ça.
Ça ressemble au panier bleu.
Ça ressemble au panier bleu un peu, exactement ça. Il y a là le problème, à mon avis. Nico, tu surveilles un peu ce qui se passe du coin de l'œil, puis c'est sûr que cette semaine, on va surveiller beaucoup ce qui se passe aux États-Unis.
On était justement en préparation, en pratique pour l'inauguration de mercredi.
Oui.
Et il y a une partie des immeubles du Capitole à Washington qui a été évacuée. Et l'autre partie est en confinement. On demande aux gens qui sont à l'intérieur de rester loin des fenêtres et des portes. Et ceux qui sont à l'extérieur de chercher un abri. Menace externe au Capitole.
Ouais.
Peut-être pas la dernière fois.
Malheureusement, cette semaine, on va avoir quelques
Non, jours mais comme ça, tu viens de traduire la note qui a circulé à l'interne, mais quand je lisais tantôt, ça donne un petit peu froid dans le dos. Tu es un employé, puis tu reçois cette note-là. Tenez-vous loin des fenêtres. Si vous êtes à l'extérieur, cachez-vous. Menace, tabarouette. C'est pas juste, finalement, on a peut-être pas. Non, c'est vraiment.
Non, c'est ça.
Ils ont une crainte.
Mais malheureusement, j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres épisodes comme ça d'ici à mercredi. Puis, parce que c'est mercredi, donc, Joe Biden va devenir officiellement le 46e président des États-Unis. Mais là, j'entendais en fin de semaine, il paraît, c'est ça. Ah, ça se peut que Trump, finalement, vous allez voir, les gars, là.
Le plan, le plan. Ah, je vais genre de vous voir la face quand Trump va prêter serment.
Malheureusement,
peu importe ce qui va arriver, Trump aura réussi à gâcher l'inauguration de Biden.
Oui, mais moi j'espère que la démocratie américaine va se tenir debout et va être plus forte que ce mouvement-là, puis qu'il va être devant le Capitole et qu'il va prêter serment devant le Capitole à l'extérieur, comme à l'habitude, avec évidemment moins de spectateurs sur le mall. Mais j'espère que la démocratie américaine va continuer de fonctionner cette semaine. Mais j'entendais en fin de semaine ceux qui tiennent ces discours-là, comme quoi il y a un complot, la gang d'agressifs là, des supporters de Trump. Apparemment, qu'ils se sont fait dire par leurs leaders, regarde, on n'ira pas au Capitole cette semaine, là, vous allez voir, c'est un piège, ils veulent nous piéger, puis ils vont tous nous arrêter avec ça, donc on va se tenir loin. Fait que pour une fois, j'espère que leur délire va peut-être servir à bon escient.
Je me demande des fois s'il y a des gens, et ça doit arriver, des gens qui vont mettre des trucs en ligne dans les forums QAnon, juste pour s'amuser puis pour voir jusqu'où les gens vont le croire. Parce que ce que j'ai vu circuler en fin de semaine, des gens pour qui le film Face Off avec John Travolta et Nicolas Cage, là, c'est vrai.
OK, ouais.
Et ils ont dit que vous allez voir Joe Biden, mais c'est Donald Trump qui est en dessous de la face de Joe Biden mercredi.
D'ailleurs, là-dessus, le reportage du journaliste de Québécois en fin de semaine, il est intéressant. Celui qui a infiltré les complotistes.
Jean Balthazar.
Il explique un peu quand il se rendait sur les manifestations dans l'auto, les conversations que ces gens-là, parce que lui, il s'est infiltré avec eux autres, il a participé avec eux autres à des manifestations, puis il embarquait dans les mêmes autos qu'eux autres. Tu sais, juste le bout, il explique que pendant 2 heures, à un moment donné, il y a eu un trajet de 2 heures à faire en auto. Pendant 2 heures, ils n'ont parlé que de ça.
Que de ça.
De dire que Trump était... Je vous ferai pas tout le détail des complots, mais ils ont parlé de complots pendant 2 heures. Tu sais, ils ont pas dit à un moment donné, on parle-tu du Canadien un peu, on parle-tu d'autres choses un peu, les boys? C'est des gens qui font une fixation, là. C'était très intéressant, ça.
Et je regardais ce matin dans le journal, puis en fin de semaine, on voyait plusieurs images circuler sur les médias sociaux, là. Les sympathisants de Bougalou, une espèce de groupe d'extrême droite qui se sont rassemblés devant les parlements dans différents États. Tu regardes les photos. Je comprends que des fois, on va se dire, tu sais, on n'a pas nécessairement la même mentalité que les Américains, les armes à feu, tout ça, pour eux, ils tiennent. Mettons que ça, je suis prêt à comprendre qu'il y a une différence.
Oui.
qu'on peut donner. Bon. Quelqu'un qui a un fusil chez eux, etc., parce qu'il veut se protéger, c'est une chose. Mais d'avoir tous ces coucous-là avec des armes automatiques, semi-automatiques, des armes de guerre, déguisées en genre, habillées en espèce de pseudo-milice, qui se promènent dans les rues avec des gros guns.
Délire total.
C'est du délire.
C'est du délire total. Là. C'est
fou.
Ça va au-delà de l'histoire du port d'armes à feu ou pas. Aux autres, c'est des délirants, carrément, ces gens-là. Là. Hey, on s'arrête. Faut s'arrêter. On fait une courte pause. Vous écoutez Trudeau Landry et la suite au retour.